Donc, comme annoncé en début d'émission, nous recevons dans Postface, nous sommes très heureux de recevoir Marguerite Aboué pour la célèbre scénariste de la série Aya de Yopougon. Alors, pour vous présenter brièvement aux infortunés auditeurs qui n'auraient pas la chance de vous connaître encore, vous êtes la créatrice, la scénariste de la série de romans graphiques Aya de Yopougon, publiée chez Gallimard, en collaboration pour la partie dessin avec Clément Oubrerie, que vous connaissez très bien, me semble-t-il. Les tomes 1 à 6 furent publiés de 2005 à 2010, avec un succès incroyable, plus de 800 000 lecteurs, c'est bien ça?
Oui, oui, c'est ça.
Et donc, depuis 2010, on n'avait pas de nouvelles d'Aya. Et voici que Gallimard publie ces jours-ci le 7e tome, où l'on retrouve bien évidemment avec grand plaisir tous les personnages qui ont fait le succès de la série, Aya, Bintou, Innocent, Moussa, dans des péripéties très contemporaines. Pour être totalement honnête avec vous, Marguerite, Aya nous avait terriblement manqué, mais à vous, est-ce qu'elle avait manqué aussi?
Est-ce
qu'Aya vous avait manqué?
Oui, bah oui, en fait, Aya ne m'a jamais quittée, en fait. Pendant toutes ces années, bah, j'ai travaillé avec Aya,
parce que
grâce à elle, j'ai pu ouvrir des bibliothèques jeunesse à Abidjan, à Dakar.
Ouais.
J'ai fait beaucoup de voyage aussi dans d'autres pays pour aller parler toujours d'Aya et montrer aussi le film, que ce soit dans les écoles ou dans des endroits publics.
Bien sûr.
Et donc Aya ne m'a pas vraiment quitté.
D'accord. C'est juste la partie création, mais en fait le personnage a continué à vivre, mais on va dire de façon plus réelle, au contact des lecteurs et pas par l'entremise des ouvrages, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mais non, j'ai toujours parlé d'Aya, et en plus, lorsque je dédicace d'autres livres, mm-hmm. parce que j'ai fait le commissaire Kwame, j'ai fait Akissi, j'ai fait d'autres choses, et à chaque fois, je parle aussi d'Aya, parce que elle est toujours aussi sur la table,
mm-hmm, bien sûr.
et les gens me demandent toujours des nouvelles. Je pense que pourquoi est-ce que je l'ai ressorti 12 ans après, mm-hmm. à force de demandes, parce que les lecteurs, hein, vous savez, ils n'ont jamais oublié cette Aya.
Il y avait une attente, ça c'est évident.
Oui, en fait, il y a une attente là. Et puis le film aussi a beaucoup contribué, parce que Netflix a passé le film.
Oui.
Pendant plusieurs mois, et il y a eu de nouveaux lecteurs, en fait.
Oui, qui ont découvert la série par la série, voilà. Netflix, d'accord.
Voilà, par ça. Et donc, ça fait une semaine qu'on dédicace, là, avec Clément, on voit arriver une nouvelle population, beaucoup plus jeune, très, très, très urbaine, qui nous disent, justement, que c'est grâce au film qu'ils ont découvert Aya. Et donc, je pense qu'il y avait une attente des anciens lecteurs et qui n'arrêtaient pas de nous dire mais on veut la suite d'Aya, on veut la suite d'Aya. Et puis, je pense qu'avec la situation sanitaire qui m'a un peu clouée pendant quelques mois sur place, comme beaucoup, je me suis mise à me pencher sur la question. Et c'était arrivé assez vite, en fait.
D'accord. Alors, pour resituer un peu le personnage, Aya, c'est une jeune fille qui est étudiante, qui habite en Côte d'Ivoire, dans un quartier, le quartier de Cocody, si ma mémoire est...
De Yopougon.
De Yopougon, voilà. Et puis qui va dans un quartier de temps en temps un peu plus huppé du côté de Cocody. La Côte d'Ivoire, c'est la terre qui vous est chère. Comment vous êtes venu à imaginer ce personnage d'Aya, justement?
Alors... moi, alors, je dis souvent que pour que mon imaginaire fonctionne, moi, j'ai besoin que tout soit précis dès le départ.
D'accord.
J'ai besoin de d'endroits précis, des gens précis, avec des problèmes précis. Et donc, il y a forcément une démarche naturelle de l'imaginaire. Donc, mm-hmm. Il faut que j'installe tout, à commencer par l'atmosphère. Car pour moi, une fois, c'est un lieu, c'est une saveur, c'est une odeur, un visage, et tout. Enfin, on doit s'y croire, on doit y être et on doit y croire.
D'accord.
Et donc, Yopougon, c'est un quartier où je suis née, où j'ai grandi. Et donc, pour moi, c'était un décor
Familier.
rêver, voilà, complètement pour faire pour situer mon histoire. Et puis les personnages précis, même si ils ont l'air inventés comme ça, c'est Aya, c'est un peu une autofiction, parce que des Aya, il y en a énormément
en
Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yopougon, et c'est un peu toutes les voisines de ce quartier, toutes les cousines qui vivaient à la maison, et puis ma mère, même quand elle était jeune, qui avait ce caractère assez incroyable, qui ne connaissait pas faire, qui était assez indépendante, et donc tous ces personnages de femmes ont beaucoup apporté, enfin, dans ma vie, et je pense que c'est tout ça
qui
a fait Aya, en fait.
D'accord. Donc Aya, contrairement à ce que disait Flaubert, Aya, ce n'est pas totalement vous, mais c'est vous et puis l'ensemble des personnages féminins. C'est presque un archétype de la femme ivoirienne.
Oui, en fait, c'est ça. C'est complètement ça. Je crois que je pense que c'est la jeune femme dont j'aurais voulu rêver être.
D'accord.
Que j'étais restée, en tout cas, en Afrique. Je pense que c'est un peu... Bah, c'est un peu un exemple de cette... Enfin, je pense qu'il y a un peu de moi aussi, forcément, puisque je suis de certains côtés, mais moi, c'est toutes ces femmes qui m'ont élevée dans ce quartier. Ma mère, mes tatas, les voisines. Et je pense que voilà, c'est toutes ces femmes-là qui, pour moi, c'est un peu un hommage à toutes ces femmes. Et donc, on les retrouve dans Aya.
Et effectivement, dans ce septième tome, l'Afrique est très présente, bien évidemment dans le décor, puisque ça se passe en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, mais également, moi, c'est ce qui m'a fasciné, ce que j'ai adoré, c'est tous les particularismes, on va dire, langagiers, linguistiques, tout ce qui est parlé propre, on va dire, du français en Côte d'Ivoire. Moi, il y a des expressions qui m'ont ravi, qui m'ont fait sourire, qui m'ont amusé. Par exemple, inverser notre figure, ou alors cette espèce d'interjection que je connais mal, que vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, ce « der ». Le « d » accent circonflexe « h », qu'est-ce que c'est ?«
der »,
ouais, je le prononce mal, je suis désolé, je m'en excuse.
Non, c'est le « der ». Non, c'est le « der », le « quai ». En fait, ce sont des onomatopées, hein, vous savez,
ouais.
C'est renforcé à chaque fois ce qu'on dit.
Mais on sent qu'il y a quelque chose derrière, il y a quand même il y a du non-dit, il y a du culturel qui passe dans cette interjection, c'est pas juste une façon de parler, non, c'est le sentiment que j'ai eu en tant que lecteur.
En fait, c'est pour appuyer un peu ce qu'on dit, parce qu'on peut l'employer un peu pour tout, on peut l'employer quand on est énervé,
ouais.
Pour justement, même quand on se tait, quand il faut peser même ses mots,
mm-hmm.
quand il n'y a plus rien à dire, et qu'on a tout dit... Quand aussi
D'accord.
on veut se moquer, quand en fait c'est vraiment quelque chose qui a plusieurs significations.
D'accord, plusieurs niveaux d'interprétation, selon le contexte, selon l'intonation, j'imagine.
Voilà, en fait c'est ça, c'est aussi selon de tout ça. Et je quand vous parlez de ce phrasé, en fait c'est vous savez c'est l'argot, hein, c'est l'expression naturelle de la rue.
D'accord.
Et ce sont les jeunes, enfin. Les jeunes se sont appropriés, hein, et non, c'est aussi du temps de l'enrichir, hein, de leur trouvaille, parce que c'est vraiment ça, ce langage-là, c'est une réserve d'expression.
C'est un parler vrai, en fait, c'est un parler actuel, contemporain, totalement authentique.
C'est français, et en fait, une liberté avec, parce que c'est du français, hein, c'est ce que les Ivoiriens ont fait de cette langue qu'ils ont
enrichis, qui se sont appropriés, il y a une acculturation, effectivement.
Bien sûr, et c'est génial, parce qu'elle prend tout de suite, elle est libre, cette langue. Et c'est merveilleux quand vous... parce que c'est imagé, c'est inventif.
C'est exactement ça. C'est chargé de signification, chargé de sens. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était le côté linguistique était vraiment truculent et apportait une vraie richesse à l'histoire. Et puis, il y a aussi quand même des petites trouvailles scénaristiques. Alors, je ne sais pas si ça existe. Moi, je connaissais Hollywood. J'avais entendu parler de Bollywood. Et là, j'ai découvert Afrowood.
Ben oui, mais Afrowood, mais on commence là. On commence à faire des séries. Parce que pendant des décennies et des décennies, les Africains ont vu des films et des séries qui venaient d'ailleurs.
Oui, qui étaient importées, oui.
Et aujourd'hui, ils s'approprient leurs écrans et ils font eux-mêmes leur série, ils racontent eux-mêmes leurs histoires, et du coup c'était il y a tellement de personnes, enfin l'Afrique est vaste, donc c'était important aussi pour l'Afrique d'avoir son Wood.
Oui, c'est ça. Et justement, ces séries, vous me tendez une perche extraordinaire, c'est le sujet du tome numéro 7, puisque là, l'accent est mis sur Bintou, alias Flora, qui se découvre une carrière d'actrice dans un soap-opéra ivoirien, mais avec quelques déboires, parce que dans la série, c'est une briseuse de ménage. Et puis, certains en Afrique ne font pas la différence entre la comédienne et la personne, et elle se retrouve pourchassée par des femmes dans Abidjan qui veulent lui casser la figure.
Tu veux sa peau parce qu'elle prend les maris des autres.
C'est ça.
C'est la fiction. Dans la fiction dépasse la réalité.
C'est ça.
Oui, mais oui, c'est ce qui existe parce que je pense que on s'attache tellement aux personnages de fiction, justement. On s'identifie tellement. On aime beaucoup d'émotions à vivre
leurs aventures.
Que forcément, on se sent. C'est comme une famille, hein, le fait de vouloir comme ça venger la femme de la femme trompée. C'est super. Je trouve que, en fait, c'est ça, savoir raconter des histoires, c'est impliquer le public de manière émotive, hein, et c'est ce que j'essaie de faire,
c'est
dans
ça.
Mes histoires. Et,
ça marche.
Je lui laisse le loisir de jauger les attitudes et les comportements des personnages, et ça fonctionne. Mais ça, c'est parce que j'ai eu une bonne... Moi, j'ai été élevée au soap, hein, j'ai été élevée aux premières séries, et je pense que ça fonctionnait très bien avec moi, donc j'essaie de le mettre dans mes histoires.
Ouais, mais c'est évident que ça fonctionne, en témoigne le succès de la série, je parle les romans publiés, mais si ça fonctionne, c'est parce que, à mon avis, c'est un savant mélange entre des particularismes vraiment sur la mentalité africaine et ivoirienne en particulier, mais c'est également des questions universelles, parce que rien n'est laissé de côté dans cette série. La question du pouvoir du patriarcat, la question de l'homosexualité, de l'honneur, des apparences, ce sont des questions en fait universelles qui traversent toutes les sociétés actuelles, non ?
Oh oui, je pense que c'est ça qui fait le succès de d'Aya. Bon, puis aussi le fait que ce soit aussi bourré d'humour, et puis on l'a dit, hein, il n'y a pas longtemps aussi, ce langage, hein, qui fait aussi ce qu'est la bande-son d'Aya. Ce sont les thématiques universelles, hein, c'est vrai. Pourquoi, moi je me suis beaucoup demandé pourquoi est-ce que cette série traduite en 15 langues, que j'aille en Corée ou au Sri Lanka, et qu'on me dise, c'est super, vous avez la même histoire que nous, c'est la manière dont vous réglez vos conflits qui diffèrent. Je pense que, mais encore une fois, je pense que quand on arrive à raconter des histoires légères, sans pédagogie ni morale,
on ne donne pas de leçons.
Voilà, en fait, c'est pas des sons, c'est juste des histoires de vie, tout simplement. Et je pense qu'on arrive quand même à tirer pas mal de fidèles.
Donc, en fait, en conclusion, on pourrait dire qu'Aya, ce n'est pas vous uniquement, mais en fait, c'est nous. Nous tous, nous toutes, en fait, tous les hommes, tous les femmes, tous les jeunes peuvent se reconnaître dans l'un ou l'autre des personnages, peut-être selon leur âge, parce que c'est un roman graphique qui s'adresse à toutes les générations, qui va au-delà de la fracture générationnelle.
Mais en fait, vous avez tout dit.
Bon.
Voilà, vous avez tout dit. Je pense que c'est juste quand on est, on est juste humain, tout simplement, et qu'on est curieux. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité quand même, parce que ceux qui lisent Aya et qui sont pas de là-bas, c'est une forme de je sais pas, d'ouverture quand même.
Oui, je suis d'accord.
Dire, mais tiens, c'est comme ça que ça se passe là-bas, mais c'est intéressant.
De découverte, oui, un voyage immobile, hein, c'est le propre de la littérature, c'est parfait.
Oui, c'est ça, c'est des fenêtres un peu comme ça qui ouvrent un peu la vie sur d'autres endroits, sans voyager, mais
Eh ben, très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie énormément, Marguerite Aboué, pour cette interview. J'invite tous les auditeurs à se rendre en Côte d'Ivoire facilement en passant par la case libraire pour acquérir le tome 7 d'Aya de Yopougon. Et puis, bien évidemment, les tomes 1 à 6 sont disponibles. Ça se lit, on peut les lire dans l'ordre, mais pas nécessairement. Ceux qui n'ont pas connu la série peuvent commencer un peu par n'importe quel tome, j'imagine.
Oui, mais bon, c'est quand même mieux.
Dans le sens chronologique. Ok.
Voilà, de les découvrir dès le départ.
Eh bien, il y a de quoi voyager pour un moment, puisqu'il y a 7 tomes. Merci infiniment, Marguerite.
Merci à vous.
Et au plaisir.
Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.